Vous écoutez RTL.
Excellente journée à tous. RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et pour nous accompagner jusqu'à 9h30, un des chanteurs d'opéra français les plus célèbres, chez nous comme à l'étranger, Philippe Jarouski, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes, je le rappelle, contre-ténor, vous nous présentez votre nouvel album qui sortira au 3210 des exemplaires que vous dédicacerez d'ailleurs pour les gagnants. Nous retrouverons en fin d'émission le choix télé d'Isabelle Morini-Bosque et les Express de Charlotte Arrigoni. Et dans l'immédiat, on va découvrir votre disque consacré au personnage mythologique d'Orphée. Rappelez-nous en quelques mots son histoire.
Alors en quelques mots, Orphée en fait est un berger poète musicien, fils d'Apollon, oui. Parce qu'Apollon était un peu comme Jupiter, il faisait des enfants un peu partout. il se marie avec la belle Eurydice, oui. Et quelques temps après, elle est piquée par un serpent, elle meurt, et il décide d'aller la récupérer aux enfers. Il chante au dieu des enfers, qui est charmé, qui décide de lui rendre Eurydice, à la seule condition qu'il ne doit pas se retourner. Et évidemment, il va se retourner, pris par le doute, et il va la perdre pour toujours.
Et la musique nous rejoint. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écouté avec attention, bien entendu, ce nouvel album de Philippe Jarouski.
La Storia di Orfeo, c'est le titre de cet album. Orfeo, c'est donc Orphée, personnage mythologique qui a largement inspiré les compositeurs du XVIIe siècle. Monteverdi, tout d'abord, a créé déjà l'opéra avec son œuvre L'Orfeo. Première fois qu'une œuvre chantée, mise en musique, mise en scène, n'était pas religieuse. Et ça, c'était en 1607. Puis Luigi Rossi a aussi dédié un opéra à Orphée, 40 ans plus tard. De même qu'Antonio Sartorio en 1672. Sur votre album, vous avez repris des airs de ces trois opéras italiens pour, en quelque sorte, le recréer. Pourquoi est-ce que ce personnage d'Orphée a tant fasciné à l'époque ?
Alors, il a tant fasciné parce qu'en fait, il est le symbole de d'une révolution en musique, celle de l'opéra. C'est-à-dire qu'avant, on composait plutôt des pièces à plusieurs voix, des choses d'ailleurs assez complexes en polyphonie. Et le texte, finalement, avait un peu d'importance. On ne racontait pas vraiment une histoire, finalement. Et Monteverdi va imposer cette révolution qui s'appelait d'ailleurs le recitar cantando, c'est-à-dire réciter en chantant, raconter une histoire. Et en fait, c'est la musique doit se plier aux mots. Et effectivement, Orphée a paru au compositeur comme le symbole, justement, de ce personnage qui écrivait de la poésie et faisait de la musique en même temps.
Donc, sur cet album, vous nous faites remonter le temps, vous nous emmenez entre 1607 et 1672 au cœur de la musique baroque. Moi, il me fait un petit peu penser à quelqu'un, cet Orphée, un surhomme dont le chant a des pouvoirs magiques. C'est un peu vous, ça, Philippe Jarouski?
Non, mais en fait, c'est vrai que ce qui est un petit peu le challenge de chanter souvent les personnages d'Orphée, c'est d'apporter effectivement cette dimension magique. Alors, ça l'est dans l'écriture des compositeurs, oui. C'est pour ça que ça les motive aussi. Ils sont obligés d'écrire une musique magique. Surtout, justement, la fameuse scène des enfers où l'air d'Orphée doit être spécial. Donc, il faut effectivement peut-être apporter une couleur particulière à sa voix et trouver quelque chose peut-être entre l'humain et l'irréel. Et comme on dit souvent que j'ai une voix angélique, peut-être ça m'a plu aussi pour ça d'essayer d'évoquer un personnage qui est comme ça, entre ciel et terre.
Qu'est-ce que ça vous inspire quand justement vous entendez dire que vous avez une voix angélique ? La musique des anges, c'est quand même quelque chose de particulier.
Oui.
On parle de vous, pardonnez-moi, mais c'est votre corps qui exprime ça, votre voix.
Oui.
Il y a quelque chose de magique là-dedans, d'irréel, je ne sais pas.
Bah moi, ça m'a beaucoup énervé au début. Hein. J'ai toujours dit, en tout cas, je ne suis pas un ange. J'étais toujours en train d'essayer aussi, parfois même, de trouver des personnages qui allaient à l'encontre de ça. Et puis, je pense que l'âge aidant, on arrive à accepter plus facilement ce qu'on dit de vous et peut-être de se dire qu'il y a une part de vérité là-dedans.
Ah, bah voilà, vous assumez, c'est bien. Alors, les partitions originales de ces trois maîtres italiens existent encore, hein, et pourtant, elles ont 4 siècles.
Oui. Alors, pourquoi Monteverdi est un compositeur qui a eu tellement de succès qu'il a été édité de son vivant? Donc ça, évidemment, ça a aidé beaucoup la conservation des partitions. Pour le reste, on a eu la chance d'avoir des manuscrits qu'on survécu jusqu'ici, parce que c'était des opéras qui ont été très importants. Il faut savoir que l'opéra de Rossi, celui de l'Orphée de Rossi, est le premier opéra qui a été représenté à la cour de France aussi. Donc ce sont deux opéras aussi très importants.
Donc il y a des pages d'histoire extraordinaires qui se vivent et qui se tournent avec ce disque et avec ses œuvres.
Oui, et d'ailleurs l'Orfeo de Rossi était politique puisque c'est Mazarin qui voulait imposer la musique italienne à la cour de France.
Charlotte.
Un peu de musique, bien sûr.
J'ai une envie.
La Storia di Orfeo, c'est donc un projet à deux voix, on vient de les entendre, celle du héros et de son amoureuse Eurydice. Il y a aussi un chœur et un orchestre dirigé par le Suisse Diego Fasolis, grand spécialiste du baroque. Je lui trouve à cet album un son épuré, un petit peu à l'image de ce que vous aviez fait sur le précédent album consacré à Bach. Est-ce que plus on avance dans une carrière lyrique, plus on veut aller comme ça vers les purs, vers l'essentiel, se débarrasser peut-être de toute la flamboyance, la virtuosité à tout prix?
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que le personnage d'Orphée m'a intéressé. Cette musique, elle montre aussi quelque chose qui doit toucher les cœurs de façon directe, justement, peut-être avec moins de virtuosité qu'avec certains grands opéras seria italiens de Handel et d'autres. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ce projet, c'était de resserrer vraiment l'action sur les deux personnages principaux, Orphée et Eurydice. Évidemment, dans les opéras en entier, il y a beaucoup d'autres personnages. Il y a même des personnages comiques, des personnages secondaires. Et je voulais vraiment recréer une forme de mini-opéra que je pouvais moi aussi proposer aussi en concert. Et jouer sur le fait qu'une grande partie du public évidemment connaît cette histoire et la suggérer comme ça sur scène, c'était plus facile finalement et plus intéressant peut-être que de chanter parfois tout le temps tout seul sur scène en récital.
À l'origine, dans les trois opéras dont nous avons parlé, le rôle d'Orfeo était tenu par des ténors ou des castrats. La vôtre, elle se situe un petit peu entre les deux, plus aiguë que celle des ténors et pas tout à fait équivalente à celle des castrats.
Moi, je suis contre ténor.
Exactement. Contre ça, en opposition. Est-ce qu'avec le temps, cette voix, elle se fait plus fragile?
Alors non, curieusement, non. Elle change, évidemment, et je crois que toutes les voix changent avec l'âge, le corps, la maturité, la pratique vocale, ce qu'on a vraiment envie de faire. Peut-être, elle gagne... Elle gagne en rondeur, peut-être elle peut perdre un petit peu en virtuosité. C'est pour ça aussi que je me dirige peut-être vers des rôles peut-être plus matures, plus profonds, mais avec moins de notes partout, comme on dit. Et puis, il y a aussi une prise de conscience que, bien entendu, le contre-ténor chante la musique des castrats, qui sont des voix perdues, mais il peut chanter d'autres répertoires, il peut se diriger vers des terrains encore inconnus pour les contre-ténors.
Et est-ce que en vieillissant, votre voix devient plus grave quand même ?
Alors, curieusement, moi je pensais ça. Je pensais que ma voix deviendrait plus grave et en fait la tessiture n'a pas trop changé.
C'est ce qu'on raconte habituellement ?
Oui. Pas tant que ça en fait. C'est plutôt la couleur qui change.
Alors en mai, on fêtera l'anniversaire de la naissance de Monteverdi. 4 siècles et demi plus tard, RTL le célèbre ce matin. Grâce à notre invité, le contre-ténor Philippe Jarouski, on se retrouve dans un instant.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous sommes en compagnie du contre-ténor Philippe Jarouski qui publie chez Erato La Storia di Orfeo. Vous avez commencé par le violon, mais la première fois que vous vous êtes retrouvé sur une scène d'opéra, ça a dû quand même vous faire un drôle d'effet. Excusez-moi de cette question, mais c'est la vie qui bascule, non ?
Et c'était pour chanter du Monteverdi, d'ailleurs, oui. Je m'en rappelle. C'était le commande Popée. Quand j'ai fini ces 4 heures d'opéra, je me suis dit, je veux faire ça. Je veux faire ça toute ma vie, c'est trop bien, comme on dit.
C'est parce que c'est la projection de soi-même. Je veux dire, chanter, ce n'est pas la même chose que jouer du violoncelle ou jouer
non.
du violon.
Moi, je me rappelle que j'ai commencé à chanter, je me sentais totalement nu, en fait, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, on peut se cacher derrière un instrument, par l'action même de jouer. Et puis aussi, la voix est le reflet de l'âme. Je pense que oui, il y a vraiment une partie de, il y a une partie de ça, et du coup, on a l'impression de dire des choses plus personnelles quand on chante que quand on joue un instrument, c'est sûr.
Vous n'êtes pas issu d'une famille d'artistes ou de musiciens. Beaucoup de vos amis ne sont pas non plus issus de ce sérail. Vous avez l'impression d'avoir ouvert votre entourage à l'opéra, de leur avoir montré qu'il fallait pas craindre un milieu trop élitiste.
Oui, il y a des peurs. Moi, je me rappelle, mes parents avaient peur aussi. Ils me disaient, mais dans quelle galère tu t'es mis ? Parce qu'on ne sait pas, c'est incertain aussi, une carrière en musique. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu. Et c'est vrai que c'est pas gagné d'avance.
Et puis, vous êtes à un moment de votre carrière où vous avez chanté énormément de rôles. Vous avez déjà pas mal élargi le spectre récemment. Vous intervenez dans d'autres registres, chez M, par exemple, Mathieu Chédid. Oui. Son nouvel album, La Momali, hommage au Mali, sort vendredi prochain et on vous y entend.
C'est un cadeau, ça, hein, un extrait du nouvel album de Mathieu Chédid en avant-première. C'est extrêmement surprenant. Comment s'est passée la rencontre ? C'est Mathieu Chédid qui est venu vous chercher ?
Oui, la rencontre s'est passée à un concert que j'avais fait au Théâtre des Champs-Élysées. Il était venu écouter. Il adore la musique classique. Mmh. Il est très curieux, comme beaucoup de chanteurs, d'ailleurs, de toute façon, comme beaucoup de compositeurs. Et comme il dit lui-même, il me dit, moi, je me sens plus musicien que chanteur. Et c'est un formidable musicien. Et je suis allé l'écouter hier, d'ailleurs, dans un concert privé qu'il a donné justement pour la sortie de ce disque. Et je trouve que c'est un très très beau disque, et c'est un disque aussi qui véhicule des messages de tolérance, d'ouverture sur l'autre qui font du bien en ces temps troublés.
Ça a l'air très naturel chez vous d'être rentré dans cet univers. J'ai l'impression que ça ne vous pose aucun problème.
Disons qu'en tout cas, oui, Mathieu est quelqu'un qui sait ce qu'il veut entendre. Et voilà, quand il a pensé à moi pour ce titre-là, il avait vraiment pensé que voilà, ça s'inclurait de façon...
Il savait où il vous emmenait.
Exactement, et je lui ai fait confiance, bien entendu.
Charlotte.
Et parce qu'il y a quelques années, vous disiez qu'en aucun cas vous alliez chanter autre chose que du classique. Hein, vous étiez plutôt fidèle à cela. Mais moi, je vous ai même entendu récemment chanter Voyage, Voyage de Désiré Alès lors de la Nuit de la Voix.
Vous étiez là aussi, c'est
voilà,
vrai.
Voilà, tout le monde était là. Vous vous interdisiez avant ce genre d'incartade, ça faisait mauvais genre, enfin...
Oui, disons que c'est vrai que moi j'étais un peu un intégriste, je voulais convaincre le plus de gens possible que la musique classique c'était formidable, je continue à le faire, j'espère, et d'ailleurs je vous remercie de m'inviter pour défendre cette musique qui, à mon avis, peut apporter beaucoup de choses aux gens, mais c'est vrai que voilà, je me permets de plus en plus des fantaisies, et peut-être que moi aussi j'ai un peu grandi et que je suis devenu un petit peu plus tolérant, tout simplement.
Et puis c'est une question de confiance aussi, Philippe Jarowski.
Oui, une question de confiance.
Vous êtes imposé dans votre profession.
Là par exemple, j'ai chanté effectivement Voyage, Voyage, mais c'était accompagné au piano d'André Manoukian, donc on fait confiance tout de suite aussi.
Vous pouvez faire des écarts. Alors Philippe Jarowski, vous lancez votre académie musicale pour les jeunes chanteurs dans l'enceinte de la scène musicale sur l'île Seguin, un nouveau lieu de spectacle qui ouvrira donc le 21 avril à Boulogne-Billancourt, bien entendu. Qu'est-ce que vous recherchez au travers de cette transmission ?
Oui, c'est un très très gros projet que je lance. Ma propre académie, c'est un petit peu mégalo, mais en fait, c'est un peu donné la chance qui m'a été offerte quand j'étais jeune. J'ai eu un professeur de collège qui a dit à mes parents qu'il fallait que je fasse absolument de la musique. Donc, il y aura deux sections. Une section pour des jeunes enfants qui n'ont pas forcément accès à la musique. Donc, leur faire démarrer des instruments. Et puis, une section un petit peu pour des plus grands, parce que j'ai remarqué aussi au cours de ces dernières années que c'est pas toujours facile pour beaucoup de jeunes professionnels de débuter leur carrière, de rencontrer des agents, de faire leur premier disque. Donc voilà un projet titanesque et on a la chance d'intégrer ce merveilleux nouveau bâtiment.
Un site exceptionnel.
Qui va être, je crois, un très très grand succès.
Et je crois que vous donnerez un concert justement le 23 mai au profit de cette académie.
Exactement.
Oh,
Le voilà, Orphée qui tente de séduire le gardien des enfers. Vous partez en tournée la semaine prochaine en Amérique latine. Beaucoup de chanteurs d'opéra n'ont rien à envier aux rockstars. Hein. Mais on voit aussi parfois des metteurs en scène ou des chefs se faire copieusement huer, voire même siffler, parfois comme au stade. Souvent, les personnes qui vont pour la première fois à l'opéra sont même étonnées. Quelle réaction du public, vous, au cours de votre carrière, vous a le plus touché ou amusé?
Oui, c'est pas d'ailleurs ceux qui vont pour la première fois qui sifflent ou qui
huent. Non, au contraire, ils se tiennent bien.
C'est plutôt les spécialistes.
Ça, c'est sûr.
Oui. La plupart des gens qui viennent à l'opéra pour la première fois sont charmés parce qu'ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils sont charmés aussi par cette symbiose qu'il y a entre la scène, la musique, les lumières, le spectacle, la danse, beaucoup, souvent aussi. Et souvent, je pense que quand on y va une fois et qu'on a la chance d'aimer un spectacle, on y retourne. Moi, les meilleurs souvenirs, justement, ce qui est très frappant, moi, c'est la première fois, par exemple, que j'ai chanté l'année dernière à Mexico, où j'avais un public en face de moi, la moitié de la salle avait moins de 30 ans et hurlait comme un concert pop. Et c'est ça qui je trouve est très très bien la musique classique, c'est que la musique classique elle s'écoute dans le monde entier. Il n'y a pas de frontières, on peut aller faire un concert à Hong Kong, à Tokyo, à Pékin, à Buenos Aires, et c'est ça qui me plaît beaucoup évidemment dans mon métier aussi.
Alors il est temps de faire gagner à nos auditeurs le nouvel album de Philippe Jarouski. Faites le 32-10 si vous avez la réponse à la question que va vous poser tout de suite Charlotte.
Quel personnage mythologique a inspiré notre contre-ténor sur ce disque?
On est vraiment très gentils. La réponse est au 32-10. Philippe Jarouski reste à nos côtés et dans un instant Charlotte Arrigoni nous livre ses express du jour. Passez une très belle journée à l'écoute d'RTL, elle commence très bien avec notre invité.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Les Express LVT.
Nous sommes toujours et avec grand plaisir en compagnie de Philippe Jarouski. Vous restez avec nous, bien entendu, hein, puisque nous allons accueillir Charlotte Arrigoni. Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Paul McCartney prépare un nouvel album.
Oui, l'ancien Beatles, âgé de 74 ans, a révélé à la radio britannique BBC qu'il était déjà au milieu de ce nouveau projet et qu'il y prenait beaucoup de plaisir. Par ailleurs, Paul McCartney a aussi confié qu'il collaborait avec le producteur américain Greg Kurstin, co-auteur du dernier album d'Adèle. On ignore pour le moment la date de sortie de ce nouveau disque. Son dernier, New, est paru en 2013.
La maison de Victor Hugo à Guernesey va être restaurée en octobre prochain, Charlotte.
Et pour cause, cette bâtisse nommée Hauteville House, où le poète a vécu en exil au 19e siècle, est en train de prendre l'eau. Il pleut jusque dans la véranda. Coût des travaux estimé à au moins 2 millions d'euros. Au moins, c'est pourquoi la ville de Paris, propriétaire des lieux, demande de l'aide au grand public. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur le site internet www.fondation-patrimoine.org.
Après le succès du coup de foudre à Jaipur, TF1 complète sa collection.
En effet, cette comédie romantique a attiré plus de 5 millions de téléspectateurs en octobre dernier et TF1 va donc lancer une collection baptisée Coup de foudre A, c'est une information RTL. Le nouvel opus s'intitulera Coup de foudre à Noël. On retrouvera notamment au casting Thomas Sisley et Julie Debona. Le tournage a commencé hier en Suède et se poursuivra en République tchèque.
C'est un des moments forts qui a marqué l'actualité politique ces dernières années. Le débat entre François Mitterrand et Jacques Chirac, c'était en 1988.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Débat de l'entre-deux-tours au cours duquel on a pu entendre ce genre d'échange devenu culte, eh bien, ce débat va être adapté au théâtre. C'est Jacques Weber et François Morel qui endosseront les costumes des deux candidats. La pièce sera présentée à Paris au théâtre de l'Atelier du 2 au 7 mai prochain, très exactement entre le premier et le second tour de l'élection cette année.
On en a parlé le mois dernier dans Laissez-vous tenter, les divas seront sur scène plus tôt que prévu, dites-moi.
Oui, c'est vous, Charlotte Latour, qui nous avez présenté ces 5 jeunes femmes hautes en couleur, jeunes femmes qui reprennent les plus grands airs de classique. Les représentations au théâtre Montparnasse devaient commencer en septembre prochain, eh bien, elles commenceront finalement le 19 avril. Les places, à partir de 11 euros, sont déjà en vente.
Ça promet un joli moment, c'est vrai.
Merci beaucoup Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Philippe Jarouski, qu'est-ce qui a pu retenir votre attention dans le journal que nous a proposé Charlotte ?
Dans le journal, le prochain enregistrement de McCartney, parce que McCartney fait aussi des digressions classiques. Je crois qu'il avait écrit une symphonie ou un opéra, non ? un oratorio, je crois. Voilà. Et donc, voilà.
Donc, il a aussi l'univers de McCartney, vous.
Voilà. Et puis, il y a un petit clin d'œil au Diva que j'avais rencontré justement à l'occasion de la Nuit de la Voix. Et elles sont très, très sympathiques et pleines d'enthousiasme. Une bonne façon de découvrir, si on a un peu peur de l'opéra en version longue, voilà, des best-of.
On va passer à notre soirée télévisée. D'abord aux audiences avec Médiamétrie.
Et où étaient les gens hier, Philippe ? Eh bien, ils étaient dehors. Ça n'a rien que plus remarquable, le score de TF1. Le téléfilm a été suivi, Entre deux mers, a été suivi par 6 700 000 personnes. C'est un très gros score, énorme, 29% du public sur la une. Et alors, qui est deuxième, si j'ose dire ? Eh bien, c'est De Gaulle. De Gaulle, le dernier roi de France, le documentaire sur la Troie, est tout de même suivi par 2 300 000 personnes. Il vaut mieux oublier le reste. Et qui est en quatrième position ? Ben, c'est une chaîne de la TNT, W9, qui rassemble 1 600 000 personnes devant le film Divergente. Allez, on oublie tout le reste.
Ce soir, Isabelle, la spéciale Tout le monde joue avec le corps humain sur France 2, avec notre camarade Michel Simès.
Et oui, 2 heures de questions en direct avec Nagui et Michel Simès sur le corps, comment il fonctionne, comment l'entretenir, comment développer ses capacités, ça vous le savez, vous Philippe, c'est drôle, c'est utile, on fait corps avec eux.
Mais vous revenez d'abord sur le succès du capitaine Marlowe sur France 3.
Oui, alors Marlowe, on le rappelle, c'est une gendarme atypique jouée par Corinne Maziero. Marlowe a l'air idiote sans l'être, se balade sans cesse avec une chapka à oreilles de couquère qui lui donne de faux airs de dingo, voire de dingo tout court. Mardi dernier, non seulement elle est arrivée en tête des audiences, mais elle a fait le double de la série américaine de La Une. En sera-t-il de même ce soir ? Pas sûr avec le foot, mais il est toujours sympa cet épisode avec Sandrine Bonner en veto de parc zoologique. Le corps d'un jeune est découvert sur les lieux où Marlowe retrouve un légiste, Marius Colucci, avec qui elle a travaillé dans le passé.
Oscar, youyou, fait plaisir de te revoir, un bisou.
C'est une immense joie, capitaine.
T'es toujours aussi coincé du cul, toi, hein ? Oscar m'a tué. Alors ?
Eh ben voilà. Pauvre Tchou. Ce matin, en arrivant, j'ai repéré des traces de pneus. Et puis j'ai retrouvé ça aussi, un bout de tissu synthétique noir.
Ah ouais ? Putain, toi, des fois, je sais pas, j'ai envie de te rouler une pelle, je sais pas ce qui me retient. Ton haleine, peut-être.
Voilà. Tout le capitaine Marlowe est dans cet extrait. Alors, j'ai joint Corinne Maziero en tournage hier à Berck d'un nouvel épisode pour lui demander quelle avait été sa réaction en découvrant les audiences. Oui, c'est la même.
Quel effet ça m'a fait ? Vous avez un micro à côté de vous ?
C'est branché.
Ok. Alors, ça m'a fait cet effet-là. Voilà, grosso merdo, ça a fait cet effet-là. Et puis, j'étais pas la seule. Dans toute l'équipe, quand on est arrivé sur le plateau, tout le monde était super content. C'est une équipe assez soudée. Donc, c'est cool, quoi. On est content de voir que le boulot est reconnu par tout le monde. Ça, c'est super. En conclusion, regardez les matchs en replay et regardez Marlowe en direct. Sinon, nous ne pourrons plus jamais venir vous faire rigoler, vous faire rêver avec Marlowe et tous ses acolytes.
Voilà, faut rigoler. Et le dernier petit extrait, Maziero est face à la veto pas commode.
Votre petite protégée, là, elle est moins à cheval que vous sur la procédure. Hein. Du coup, elle a décidé de se mettre à table, c'est bien, non ?
Mais je vous jure, Manon n'y est pour rien dans la mort de Chalard. Je vous jure.
Mais on verra, hein, Inch'Allah. Puis moi, j'ai un avantage dans mon métier. J'ai tellement l'air pas fut-fut que les gens, ils ont pitié de moi, ils finissent par s'accuser de tout et de n'importe quoi. C'est cool, hein ? Voilà, bientôt. Bon, tu sais que t'as du bol d'être en garde à vue avec moi ? Parce que, un, j'ai pas de mec. Deux, j'ai pas de gonzesse, j'ai pas de gosse et surtout j'ai pas la gastro. Alors, j'ai tout mon temps. Je t'écoute.
Le personnage comme la comédienne sont totalement givrés.
Voilà.
Ils se sont trouvés l'un l'autre. On va marquer une dernière pause dans cette émission, puis on se retrouve dans un instant pour dire au revoir à Philippe Jarouski et vous faire gagner, bien entendu, son album, La Storia di Orfeo. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Cher Philippe Jarouski, quel personnage mythologique a donc inspiré votre dernier disque ?
Alors, je crois qu'il s'agit d'Orphée.
C'est bien, vous étiez donc présent aux enregistrements et à cette émission. Et grâce à vous, nos auditeurs viennent de gagner au 32-10 cet album qui sort, La Storia di Orfeo. Chez Erato, merci beaucoup d'avoir passé cette matinée avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à Charlotte qui avait pris tant de plaisir à découvrir ce nouvel album. On va se séparer avec une petite surprise.
Voyage, voyage.
Ça vous fait fait rire, mais faut assumer. Oui, là, là, c'est la nuit de la voix 2017.
C'est Orphée Désirless, là, on va dire.
Voilà, écoutez, on aura tout fait ce matin. Merci d'avoir passé cette matinée avec nous. On était très heureux de vous accueillir. Et on est surtout heureux maintenant de retrouver Julien Courbet, notre ténor à nous.
Le vrai challenge, c'est s'il pouvait se faire la même coupe de cheveux.
Ah, d'accord.
Ça serait Paris formidable. Tenu. Alors là, si vous le faites, monsieur, vous serez mon héros.
Même merci ça, beaucoup. Ça lui irait bien.
Ne le poussez pas à faire des bêtises. Allez, on vous écoute
merci
avec
beaucoup.
Plaisir.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.